Bonjour Stanislas Dehaene.
Bonjour.
Professeur au Collège de France, spécialiste en neurosciences cognitives. On vous présente souvent comme l'un des meilleurs spécialistes de ces sciences du cerveau dont les progrès ces dernières années ont été stupéfiants. Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer ne jure que par ces nouvelles sciences à tel point qu'il vient d'ailleurs de vous nommer à la tête d'un tout nouveau conseil scientifique de l'éducation installé hier soir et qui regroupe une vingtaine de personnalités. Vous êtes chargé de l'aider à réformer les modes d'apprentissage, d'enseignement, ce qui n'est pas d'ailleurs sans en inquiéter certains. On en parlera au long de cette interview. D'abord, comment il faut vous appeler, monsieur le professeur ou monsieur le ministre bis de l'éducation?
Ah non, pas ministre du tout. Moi, je reste un chercheur dans le laboratoire, mais c'est quand même un geste très important de la part du ministère de l'Éducation et du ministre de dire les sciences nous importent. Il nous importe de jeter une lumière scientifique avec des expérimentations sur ce qui est vrai et ce qui est faux en éducation, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est important aussi, je crois, que 21 scientifiques de ce conseil, dans toutes les disciplines, s'engagent pour essayer d'améliorer notre système éducatif.
Les neurosciences, aujourd'hui, c'est un angle mort de l'éducation?
Alors, il faut vraiment pas dire les neurosciences, parce que je pense pas que ce soit le cœur du sujet. Et les médias ont tendance à dire les neurosciences comme si le cerveau et la matérialité du cerveau étaient au cœur du débat. Ce n'est pas ça. Ce qui est au cœur du débat, c'est l'approche scientifique. Les sciences cognitives, ouais. En particulier, pour mesurer les comportements et savoir comment l'apprentissage fonctionne. Qu'est-ce qui permet à un enfant d'apprendre? Dans quel ordre et avec quelle dose et journalière les pédagogies doivent être utilisées pour avoir les meilleurs effets, pour que les enfants retiennent mieux les informations, comprennent mieux ce qu'ils lisent par exemple.
C'est ce qu'on va essayer de faire ce matin au micro de France Inter. Cette révolution scientifique, elle a connu un coup d'accélérateur assez récent finalement, avec les progrès des IRM, les photos de notre cerveau. Qu'est-ce qu'on apprend quand on regarde ces photos?
On a appris énormément de choses sur l'architecture du cerveau et sur les algorithmes du cerveau. Par exemple, si je vous amène dans une IRM au centre Neurospin où je travaille, en quelques minutes, je peux voir l'ensemble de votre circuit de la lecture. Et on a vu que effectivement, en fonction de votre facilité de lecture, on trouve des activations cérébrales qui sont plus ou moins intenses. Mais pour ce qui est de la pertinence pour l'éducation, je pense que ce qui est le plus important, c'est que on arrive à comprendre par quelles étapes de traitement l'information passe et comment l'apprentissage change ces étapes, fluidifie certaines étapes. Donc par exemple, avec un test de quelques minutes, mais sans aucune IRM, hein, simplement sur la base du comportement, en mesurant la vitesse de lecture, on arrive à dire tel enfant a automatisé la lecture parce qu'il arrive à lire des mots courts et des mots longs avec exactement la même vitesse, ou tel enfant en est encore au début de la lecture parce que ok, il arrive à lire, mais son temps de lecture est proportionnel au nombre de lettres. Ce qui n'est pas un très bon signe parce que ça veut dire qu'il est encore en train de déchiffrer péniblement de la gauche vers la droite. Voyez. Donc, on peut avoir des mesures assez fines en sciences cognitives des comportements et de leur amélioration avec l'apprentissage.
Une fois qu'on a posé ce constat, est-ce que ça aide aussi un enfant dans son apprentissage de la lecture, par exemple, ou est-ce que c'est juste une photo à l'instant T de ses neurones et de son cerveau?
Non, ce que vous dites est très important. Il faut à la fois avoir des outils d'évaluation et tout de suite derrière des outils d'intervention. Et ce sera un des groupes de travail de ce Conseil supérieur de l'éducation, de travailler sur à la fois des évaluations individuel en CP, il s'agit pas du tout d'évaluer toute l'école ou d'évaluer tel enseignant, mais chaque enfant d'être capable de dire une certaine sorte de mini-diagnostic, cet enfant-là il bloque à telle étape du traitement de la lecture, et immédiatement derrière proposer des outils soit informatisés, soit des outils pédagogiques standards pour adresser le problème particulier de cet enfant-là.
On va expérimenter dans les écoles demain ?
On le fait déjà bien sûr, ouais. Mais on va continuer à le faire et je pense que c'est très important. D'ailleurs l'éducation nationale a un département d'évaluation des pédagogie et avec des statisticiens qui sont excellents. Et donc, on va travailler avec eux pour, effectivement, lorsqu'on n'a pas les réponses a priori, vous savez, en science, on est quand même souvent dans le doute et on n'a pas toutes les réponses, eh bien, on essaiera dans certaines classes telle approche. Quand je vous parle de ces tests, par exemple, on pense que c'est utile pour les enfants, mais la première chose que nous ferons, c'est de voir si, effectivement, c'est plus intéressant d'avoir ces tests que de ne pas les avoir. Parce qu'après tout, on prend du temps aux enfants dans les classes. Donc, ce sera évalué.
Stanislas Dehaene, Jean-Michel Blanquer, qui ne jure que par vous et par vos travaux, explique par exemple que les neurosciences tranchent une fois pour toutes et quasiment définitivement le débat sur l'apprentissage de la lecture en faveur de la méthode syllabique, le B.A.B.A. plutôt que la méthode globale. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce que la science là-dessus est définitive?
La science est quand même extrêmement claire. Alors, il y a un problème de terminologie. Nous, on parle plutôt de méthode phonique. Le point clé...
Je vais vous poser la question différemment. Si dans une classe, un maître ou une maîtresse utilise une autre méthode parce que ça colle mieux à un enfant, est-ce que vous lui dites qu'il faut arrêter et uniquement faire du béaba?
Non, mais il y a plusieurs approches pédagogiques, mais toutes doivent être centrées sur la même opération, qui est la capacité de décrypter, parce qu'il s'agit vraiment de ça, une sorte de cryptogramme, décrypter la chaîne de lettres pour la transformer en son. Et ensuite, entendant la sonorité du mot, on peut être capable de comprendre de quoi il s'agit. Supposer qu'on ait un vocabulaire oral, c'est pour ça que le vocabulaire et la langue orale est aussi tellement important dans la lecture. Mais donc cette opération de décryptage, c'est le cœur du début de la lecture. Et effectivement, un enseignant qui ne ferait pas ça, il y a eu par le passé, je crois que c'est terminé maintenant, parce qu'il y a quand même un très grand accord là-dessus, mais il y a eu par le passé des enfants qui étaient simplement exposés à des mots en espérant qu'ils découvrent tout seuls le principe alphabétique. On sait que ça n'est pas une bonne approche pédagogique. C'est très clair, la science est extrêmement claire là-dessus.
Est-ce que vous allez réécrire les manuels scolaires dans ce sens et les imposer dans toutes les écoles?
Certainement pas, parce qu'il y a beaucoup de choses excellentes. Par contre, ce que nous serons peut-être amenés à faire, c'est de créer une sorte de grille de lecture ou de cahier des charges pour les manuels qui dirait voilà ce que nous pensons que vous devez avoir plutôt au premier trimestre, voilà quelle dose nous pensons que vous devez avoir. Là encore, il y a une grande convergence avec les recherches en sociologie de l'éducation ou en sciences de l'éducation qui montrent que la dose, si je puis dire, l'intensité des apprentissages, des correspondances graphiques, phonème dans le premier trimestre, joue un rôle déterminant pour l'apprentissage de la lecture, et y compris pour la compréhension des textes. Il ne faut pas opposer déchiffrage et compréhension. On commence par le déchiffrage, et ensuite, les enfants peuvent travailler sur la compréhension de ce qu'ils sont capables de déchiffrer.
Stanislas Dehaene, l'annonce de votre nomination a provoqué l'inquiétude, disons, du principal syndicat dans le primaire, mais également de plusieurs dizaines de personnalités qui sont inquiétées de votre nomination. Philippe Mériot, Boris Cyrulnik, qui s'inquiètent du poids des neurosciences qui seraient en quelque sorte en train de devenir un nouveau dogme, une nouvelle religion quasiment d'État dans l'éducation.
Oui, mais je répète, c'était une sorte de procès d'intention. Les neurosciences ne sont pas le cœur de ce conseil scientifique. Dans le conseil scientifique, nous avons deux économistes, dont Esther Duflo, qui vient de MIT, qui est absolument remarquable.
C'est la discipline la plus représentée. Je crois qu'il y a 6 oui, ou 7 sur 21, il y a un tiers.
Oui, c'est ça. Il y a un petit tiers de sciences cognitives, mais il y a beaucoup de sciences de l'éducation, 4 personnes en sciences de l'éducation. Il y a un grand informaticien, Gérard Berry, mon collègue du Collège de France. Il y a un mathématicien, il y a 2 philosophes, il y a 2 sociologues. Donc, vous voyez, c'est un drôle de procès qui est fait aux neurosciences. Je ne crois pas du tout que ce soit le cœur du sujet.
Les neurosciences ne nous diront jamais comment on fait aimer les fables de La Fontaine à quelqu'un qui ne les aime pas. C'est Philippe Mériot qui dit ça, il a raison ou pas?
Alors, je pense que ce n'est pas tout à fait juste, parce que un des sujets de réflexion du Conseil, ce sera justement qu'est-ce qui fait qu'un enfant se sent bien à l'école et aime telle ou telle discipline. Et la confiance en soi est un point très intéressant sur lequel il y a des recherches. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille, par exemple, très vite va dire « Oh, les maths, c'est pas pour moi, et ça m'intéresse pas ». Eh bien, ce sont des préjugés contre lesquels on peut lutter, parce que c'est complètement faux. Le cerveau des jeunes filles est tout à fait aussi approprié pour faire des maths que le cerveau...
Il n'y a aucune prédisposition, pardon.
Certainement pas en fonction,
pas de boss des maths,
du sexe.
Exemple.
Nous avons tous la boss des maths, c'est ce que j'essaie de défendre. Nous avons tous dans notre cerveau des compétences mathématiques. Et après, il y a beaucoup, beaucoup de préjugés qui font que les enfants, par exemple de certaines banlieues, disent « mais l'université, ce sera jamais pour moi ». Eh bien, c'est faux, et nous allons essayer d'améliorer cette notion de confiance en soi pour lutter contre les inégalités.
Comment on lutte contre les inégalités en observant les cerveaux des écoliers, expliquez-nous.
Non, mais c'est pas ça du tout. Oui. Je reviens. Oui. Nous n'allons pas observer le cerveau des écoliers. Vous vous rendez bien compte que ça n'est pas possible de faire des IRM à tous les écoliers. Oui. Par contre, en CP, il serait possible, je pense, avec l'aide des enseignants, bien sûr, qui y verront leur intérêt, il sera possible d'évaluer les compétences de chaque enfant en début de CP et en milieu de CP. En début de CP, pour dire, il y a des facteurs prédictifs. On peut savoir, dans une certaine mesure, quels enfants risquent d'être en difficulté.
Lesquels, par exemple, les facteurs prédictifs?
Donc, par exemple, le fait de ne pas bien maîtriser la phonologie de la langue, les sons de la langue, de ne pas discriminer correctement les sons de la langue, peut-être parce que ce n'est pas votre langue maternelle, eh bien, ça, c'est un facteur prédictif de difficulté de lecture. Ça ne vous condamne pas. ça n'est pas déterminant. Mais on aura donc un deuxième test au mois de février qui dira « Ah, l'enfant a progressé normalement, tout va bien, il est à l'école et tout va bien. » Ou au contraire, « Ah, comme on le craignait, eh bien, l'apprentissage ne se passe pas très bien. » Et à ce moment-là, il faut intervenir. Et c'est comme ça qu'on pourra réduire les inégalités. Vous voyez, les grandes enquêtes internationales PISA, on attend 5 ans, 10 ans avant d'avoir le thermomètre qui nous dit « Ça va mal en France. » Et on a vu qu'il y a 15 ans de baisse des scores des enfants dans les enquêtes internationales comme PIRLS. Eh bien, nous voulons raccourcir cette boucle. C'est une idée du Conseil scientifique. Mmh. Avoir des tests qui permettent, dans les 15 jours qui suivent, de donner aux enseignants des moyens d'action pour le bénéfice de tel ou tel enfant spécifique.
Stanislas Dehaene, vous restez avec nous. On attend évidemment les questions des auditeurs, celles de Léa Salamé. Dans quelques minutes, on parlera aussi, si vous le voulez bien, du rôle des parents. Que faut-il faire à la maison quand les enfants rentrent? Est-ce qu'il faut travailler? Est-ce qu'il faut laisser le cerveau se reposer pour mieux apprendre? C'est une question qu'on se pose tous quand on a des enfants à la maison. Mais là, il est 8h32, c'est la revue de presse. Claude Ascolovitch.